Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Bion à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 31 mai 2024. Donald Trump a été reconnu coupable à son procès pénal à New York, une première pour un ex-président américain.
En ce qui concerne le procès lui-même, c'était très injuste. En aucune circonstance, nous n'avons été autorisés à faire intervenir notre expert en élection.
Tout ce qu'il faut savoir sur la condamnation de Donald Trump dans un instant. L'ONU se dit gravement préoccupée par la recrudescence des meurtres de civils au Burkina Faso. Législative en Afrique du Sud vers un réveil historique de l'ANC, le parti MK de l'ex-président Jacob Zuma fait une percée à 12%. Bonsoir, bienvenue. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a qualifié ce vendredi de très injuste son procès pénal à New York lors d'une conférence de presse. Compte rendu d'Illidico.
Dans sa déclaration à la presse, depuis le hall de sa Trump Tower à Manhattan, le candidat républicain à la présidentielle du 5 novembre a fait savoir qu'il compte faire appel.
So we're going to be appealing this scam.
Nous allons faire appel à cette arnaque. Vous ne nous avez pas permis d'avoir des témoins. Vous ne nous avez pas permis de parler. Vous ne nous avez pas permis de faire quoi que ce soit. Le juge était un tyran.
Donald Trump, qui aspire à retourner à la Maison-Blanche, a également accusé dans son discours le président démocrate Joe Biden et sa bande d'être des malades et des fascistes.
As far as the trial itself, it was very unfair.
En ce qui concerne le procès lui-même, c'était très injuste. En aucune circonstance, nous n'avons été autorisés à faire intervenir notre expert en élection.
Au terme de 6 semaines de débat au tribunal pénal de Manhattan, le jury a reconnu l'ancien président coupable de 34 chefs d'accusation de falsification comptable pour des paiements fin 2016 à une actrice de film X, Stormy Daniels, pour qu'elle taise une relation sexuelle en 2006, une relation que Donald Trump continue de nier.
Joe Biden a assuré aujourd'hui qu'il était dangereux et irresponsable de la part de Donald Trump de prétendre que son procès pénal à New York, qu'il a vu jeudi être reconnu coupable, a été truqué. Retour sur le procès en question. Donald Trump, candidat républicain à la présidence des États-Unis, a été reconnu coupable d'avoir falsifié des documents financiers pour dissimuler un paiement à une star du cinéma pour adultes afin d'influencer le résultat de l'élection présidentielle de 2016. Tina Trump de la VOA nous fait le point de ce procès historique qui s'est tenu à New York, le récit avec Thierry Kaori.
Coupable des 34 chefs d'accusation, c'est ce qu'a décidé à l'unanimité un jury de New York après seulement 2 jours de délibération. Donald Trump, le premier président américain jugé par un tribunal pénal, a falsifié des documents commerciaux pour dissimuler des informations potentiellement préjudiciables avant l'élection de 2016. Après avoir entendu le verdict, le président républicain, pressenti à la présidentielle de 2024, a quitté le palais de justice, déclarant que les électeurs décideraient de son avenir le jour de l'élection.
C'était un procès truqué et honteux. Le vrai verdict sera rendu le 5 novembre par le peuple.
Mais Trump lui-même pourrait ne pas faire partie de ses électeurs, explique Barbara Perry, professeur à l'Université de Virginie.
S'il maintient sa résidence en Floride, un État où les criminels condamnés n'ont pas le droit de voter, il n'aura littéralement pas le droit de voter pour lui-même.
À New York, aujourd'hui, nous avons vu que personne n'est au-dessus de la loi, a fait savoir l'équipe de campagne de l'élection du président Joe Biden dans un communiqué. L'ancien procureur fédéral et professeur à la faculté de droit de New York, Steve Cohen, dit ne pas être surpris par le verdict.
La réalité juridique, c'est que soit vous croyez au système de justice par jury, soit vous n'y croyez pas. Et il se trouve que je crois au système de justice par jury. L'affaire a été jugée, elle a été jugée avec soin, parfois presque méticuleusement. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de problème en appel. Il y a toujours des problèmes en appel. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de surprise à venir.
22 personnes ont témoigné au cours des 6 semaines de procès, dont le rédacteur en chef d'un tabloïd qui a décrit la suppression d'articles critiques à l'égard de Trump, la star de film pour adultes Stormy Daniels, qui a déclaré avoir été payée pour garder le silence sur une relation sexuelle avec Trump que ce dernier nie, et l'ancien avocat de Trump, Michael Cohen, qui a déclaré avoir effectué ses paiements à Daniel au nom de Trump. Pour le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, le jury a pris sa décision sur la base des preuves et de la loi.
While this defendant Et même si ces prévenus ne ressemblent à aucun autre dans l'histoire américaine, nous sommes arrivés à ces procès et finalement aujourd'hui à ces verdicts. De la même manière que pour toutes les autres affaires qui arrivent au tribunal, en suivant le fait et la loi et en le faisant sans crainte ni faveur.
La condamnation de Donald Trump est prévue pour le 11 juillet, quelques jours avant que le Parti républicain ne le désigne officiellement comme son candidat à la présidence lors d'une convention du parti dans le centre-ouest de l'État de Wisconsin.
Quel impact ce verdict va-t-il avoir sur le prochain scrutin présidentiel ici aux États-Unis? Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec le professeur Mamadou Diouf de Columbia University à New York.
Il paraît certain que ça peut avoir un impact. Cela ne veut pas dire que Trump peut perdre les élections. Beaucoup de sondages ont montré que des Américains, des citoyens américains qui étaient prêts à voter pour Trump ont dit que si Trump est condamné, ils pensent réviser leur position. Donc il y aura un impact certain sur ceux qui vont voter pour Trump. Le deuxième élément qui semble intéressant à considérer, c'est le fait que Trump a gagné les primaires, mais il n'est pas encore investi. Et je pense que sa condamnation va apparaître, disons, le 11 juillet, donc quelques jours avant la convention des républicains. La grande question, c'est de savoir comment l'élite républicaine va répondre à cette situation qui est une situation inédite dans l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire un félon qui va être candidat à la présidence de la République. Même en prison, il pourrait être candidat. Ça veut dire qu'effectivement, il peut gagner les élections.
À l'étranger, certains dirigeants affichent leur soutien à Donald Trump, comme le vice-premier ministre italien Matteo Salvini, qui dénonce un harcèlement judiciaire et un procès politique. Le Kremlin condamne une élimination des adversaires politiques aux États-Unis. Comment ce verdict et les ennuis judiciaires de Donald Trump sont-ils perçus dans le monde?
Je pense que ce qui se passe est quelque chose de très simple et de tout à fait naturel, vu la polarisation qui est la polarisation politique qui aujourd'hui divise le monde entre rapidement la droite et la gauche. Donc Poutine, qui a été soutenu et qui reste, qui est toujours soutenu par Trump, que ce soit la première ministre italienne qui incarne les idées conservatrices de droite qu'on attribue à Trump. Le prochain, je suis sûr, sera Viktor Orban pour soutenir Trump. Donc, on peut dire que les démocraties classiques, l'Angleterre, etc., le Canada, ne vont pas prendre position dans les affaires intérieures des États-Unis. Mais la droite qui considère qu'elle est en train de mener, si vous voulez, une espèce de révolution internationale, c'est surtout l'international de droite, probablement, en fait, plusieurs droites dans le monde vont soutenir Trump parce que Trump incarne, si vous voulez, ce qui est dit des valeurs contre le mariage homosexuel, contre l'avortement, etc., qui sont des valeurs que tous ces groupes partagent.
Professeur Mamadou Diouf de Columbia University à New York, joint à Dakar où il séjourne en ce moment. Proche-Orient, Joe Biden a affirmé ce vendredi qu'Israël a proposé un nouvel accord global de cessez-le-feu, affirmant qu'il ne fallait pas laisser passer cette occasion d'un accord à Gaza. Dans une allocution depuis la Maison-Blanche, le président américain a déclaré que la proposition d'Israël comprenait le retrait de toutes ses forces du territoire palestinien pour 6 semaines, un cessez-le-feu complet et la libération de tous les otages. Joe Biden a également exhorté le Hamas à accepter l'accord.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine, l'ONU se dit gravement préoccupée par l'augmentation des meurtres de civils au Burkina Faso. Le haut commissaire de l'Organisation aux droits de l'homme demande une enquête indépendante et transparente. Alexandre Nolognon.
Je suis profondément troublé par le fait que les forces de sécurité et de défense et leurs auxiliaires, les volontaires pour la défense de la patrie, auraient commis des meurtres gratuits, notamment des exécutions sommaires, écrit Volker Türk dans un communiqué, même s'il reconnaît que des groupes armés sont sans doute responsables de la grande majorité des incidents. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme avait évoqué directement ces sujets avec le président burkinabé Ibrahim Traoré lors d'une visite dans le pays en mars. Il dit comprendre pleinement les menaces sécuritaires complexes auxquelles le Burkina Faso est confronté, mais qu'une réponse à ces menaces ne réussira que si le droit international est pleinement respecté partout. Volker Türk réitère son appel aux autorités du Burkina Faso à prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection des civils. Le Burkina Faso, en proie à des violences djihadistes récurrentes qui ont fait des milliers de morts depuis près de 10 ans, a connu 2 coups d'État militaires en 2022. La semaine dernière, le Burkina Faso a adopté une charte permettant au régime militaire du capitaine Traoré de rester 5 ans de plus à la tête du pays.
Toujours au Burkina Faso, des nouvelles de maître Guy Hervé Kaam, enlevé par des hommes en armes après sa sortie de prison. Le célèbre avocat burkinabé est poursuivi par le tribunal militaire pour complot contre la sûreté de l'État et association de malfaiteurs, ont annoncé ses avocats ce vendredi. Dossier vide et ridicule selon eux. Les avocats ont dénoncé une violation de la procédure et ils ont en outre formulé un recours contre la détention de maître Kaam et sa mise en examen. Le président kényan William Ruto a exprimé aujourd'hui sa confiance quant au déploiement prochain de policiers kényans dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU en Haïti, pays en proie à la violence des gangs. Le Kenya veut dépêcher 1000 policiers dans l'État des Caraïbes. Le début de ces opérations controversées étant annoncé dans les prochaines semaines, mais restant entouré d'incertitudes. En Afrique du Sud, les résultats partiels des élections législatives aux 2/3 du dépouillement laissent présager que l'ANC pourrait perdre sa majorité absolue de 30 ans au Parlement. Selon la commission électorale, la participation s'établit à 58,5%, en baisse par rapport aux 66% enregistrés au précédent scrutin. Nathalie Barge.
L'ANC recueille jusqu'ici moins de 42% des voix sous la barre des 50% nécessaires. Il avait remporté 57% des suffrages aux législatives de 2019. Le parti historique, qui détient actuellement 230 sièges de députés, devrait toutefois rester la plus grande formation politique à l'Assemblée nationale. L'Alliance démocratique, principal parti d'opposition libérale, cumule pour l'instant 22,6% des voix. Le parti populiste MK de l'ex-président Jacob Zuma fait une percée à 12%, tandis que les radicaux de gauche des combattants pour la liberté économique stagnent à 9,5%. L'ANC devra choisir entre faire des concessions avec l'Alliance démocratique, promettant des privatisations et dérégulations, ou se risquer un rapprochement avec l'EFF qui prône la redistribution des terres aux Noirs et la nationalisation de secteurs clés. Le parti devra aussi déterminer s'il est prêt à négocier avec le MK en tête dans la province Zoulou, avec plus de 44% des voix contre moins de 19% pour l'ANC. Cette province rassemble plus de 20% de l'électorat. Les résultats définitifs sont attendus ce week-end. Les 400 députés élus devront ensuite désigner le prochain président.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, un soldat sud-africain a été tué et 13 autres blessés par des rebelles du M23, annoncé aujourd'hui dans un communiqué de l'armée sud-africaine. L'incident s'est produit dans la cité stratégique de Sake, près de Goma, a affirmé la SNDF. L'armée nigériane a affirmé aujourd'hui que 5 soldats et 6 civils étaient morts pendant une attaque menée par un groupe séparatiste dans le sud-est du pays. L'armée a accusé la branche armée du mouvement des peuples autochtones du Biafra qui nie cela. Les agences de l'ONU ont réclamé aujourd'hui un accès sans entrave aux populations du Soudan en guerre depuis plus d'un an afin de leur apporter une aide humanitaire et prévenir ici un scénario cauchemardesque. Depuis avril 2023, le Soudan est le théâtre d'une guerre opposant l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires des forces de soutien rapide sous le commandement du général Mohamed Ahmed Hamdan Daglo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Togo, l'énergie solaire a de la cote, surtout en cette période de crise énergétique que connaît la sous-région. Beaucoup de ménages se tournent vers cette solution énergétique qui est non seulement durable, mais aussi économique et bénéfique pour la planète. À ce jour, elle est l'une des solutions prometteuses pour un futur décarboné, même si son utilisation en Afrique constitue un défi. Reportage de notre correspondante à Lomé, Amène Assignon.
Depuis quelques jours, Sima ne s'inquiète plus du délestage. Grâce à ce dispositif solaire qu'elle et son mari ont fait installer dans la maison, l'électricité est disponible en permanence.
On a opté pour l'armoire qu'on a combinée au panneau solaire. En journée, on est alimenté par les panneaux solaires et la nuit, la société prend le relais. Ça permet de diminuer considérablement les factures d'électricité.
Ce dispositif est pensé et conçu par une entreprise togolaise spécialisée dans les énergies renouvelables. Son ambition est de mettre à disposition des solutions durables, économiques et respectueuses de l'environnement. L'Afrique de l'Ouest dispose d'un niveau d'ensoleillement très élevé. Pourtant, elle n'arrive pas à tirer parti du potentiel qu'offre l'énergie solaire. En cause, le coût élevé des technologies photovoltaïques, le faible investissement pour pouvoir les déployer à grande échelle et aussi le peu d'intérêt qu'elles suscitent.
Partir du soleil pour avoir de l'électricité, c'est vraiment un défi que nous devons arriver, ou bien que l'Afrique doit arriver à relever. Maintenant, cela va être possible lorsqu'il y aura une question de mentalité, une question de compréhension autour de tout ce qui est en jeu lié aux énergies renouvelables, plus précisément aux énergies solaires photovoltaïques.
L'entreprise ne dispose pas que des solutions. Son directeur pédagogique, Achille Cloutier, indique qu'elle forme également de la main-d'œuvre qualifiée à travers son centre de formation.
Nous avons formé quand même beaucoup de personnes, déjà un millier, qui sont aujourd'hui sur le terrain, qui accompagnent la population, qui font des installations réelles, concrètes aussi, qui est également un développement pour notre pays et pour l'Afrique.
Face à la crise énergétique, beaucoup de ménages togolais se lancent dans la transition, notamment le solaire, avec des solutions diverses. L'entreprise M-Power, par exemple, fournit d'autres modèles d'équipements solaires.
Nous appelons ça les kits téléphones. C'est des systèmes qui sont faits pour alimenter toute une maison ou pour aider les entreprises, en tout cas, à être autonomes, partiellement ou totalement. Donc c'est un 5 kVA avec une batterie de 2,5 kWh.
Lampes, ventilateurs, lampadaires, réfrigérateurs, autant d'articles pouvant fonctionner à l'énergie solaire, une solution alternative pour soulager le quotidien des Togolais. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Des enquêteurs utilisant des images satellites pour documenter la guerre dans la région du Darfour, dans l'ouest du Soudan, affirment que 72 villages ont été incendiés en avril dernier, le nombre le plus élevé depuis le début du conflit. Pour les chercheurs qui ont mené cette investigation en source ouverte ou open source, cette méthode peut amener les responsables de telles violences à répondre de leurs actes. Henry Wilkins nous propose ce reportage relaté par Jacques Aristide.
À Londres, des enquêteurs parviennent à dénicher des données qui prouvent que des villages ont été incendiés à des milliers de kilomètres dans la région soudanaise du Darfour, déchirée par la guerre. Ils ont recours à des informations dites open source, c'est-à-dire accessibles au public, souvent sur Internet. Ben Strick est le directeur des enquêtes au Center for Information Resilience, une organisation à but non lucratif qui documente ce conflit soudanais à travers un projet appelé Sudan Witness. Selon l'étude, 72 localités ont été incendiées en avril 2024, le chiffre le plus élevé jamais enregistré depuis le début de la guerre en avril 2023.
Nous voyons souvent des villages qui sont là un jour ou un mois, et puis le lendemain, ils ne sont plus là. Ils ont été incendiés, il y a des indications claires pour les identifier. Parfois, nous pouvons même voir des images, et souvent, ces images sont filmées par les assaillants eux-mêmes, qui sont dans le village, célébrant alors qu'ils mettent le feu à ces villages et tuent souvent des gens en même temps.
Strick explique que son équipe a pu identifier certains des chefs qui ont ordonné l'incendie de ces villages à partir des vidéos disponibles. Il est pratiquement impossible de vérifier sur le terrain les attaques documentées par Sudan Witness en raison des problèmes de sécurité et des restrictions d'entrée imposées par les factions belligérantes aux médias et observateurs des droits humains au Soudan. Des avocats affirment que malgré les difficultés rencontrées pour obtenir des témoignages de première main, la communauté internationale doit faire davantage pour mettre fin aux violences perpétrées contre les civils soudanais, même si les guerres à Gaza et en Ukraine font la une des journaux. Yona Diamond est conseillère juridique au centre Raoul Wallenberg pour les droits de l'homme.
L'ampleur de l'indignation, tout à fait légitime, ailleurs dans le monde, peut également concerner le Soudan et les ressources appropriées pour protéger et mettre fin à la violence.
Selon Strick, les enquêteurs utilisant la méthode de source ouverte joueront un rôle crucial pour que les auteurs d'atrocités contre des civils répondent de leurs actes. Il ajoute que de telles investigations sont également importantes pour contrecarrer la propagande.
Certains éléments prétendent qu'ils s'opposent aux violations des droits de l'homme. Cependant, certaines des informations que nous extrayons montrent le contraire. Et c'est vraiment utile parce que nous sommes à mesure de montrer les preuves, pas seulement faire des déclarations. C'est vraiment important à l'ère de la propagande et de la désinformation.
Des ONG ont accusé les paramilitaires des forces de soutien rapide, de complicité avec les milices ethniques arabes, d'avoir mené un nettoyage ethnique et des attaques, y compris des incendies de villages, contre des communautés non arabes au Darfour.
L'État du Colorado dépense 24 millions de dollars cette année pour aider les écoles à s'adapter à l'afflux d'élèves d'immigrés. La journaliste Svetlana Pletinska s'est rendue dans une école de Denver pour découvrir comment les enseignants et les élèves s'adaptent. Son reportage est relaté par Onel Makaya.
Au cours de l'année écoulée, près de 6 000 étudiants immigrés se sont inscrits dans des écoles publiques et à Chartres du Colorado, selon des responsables de l'État. À la Colorado Heritage Heights Academy de Denver, plus d'un tiers des étudiants sont des migrants. Natalia Miller-Forest en est la directrice.
Tout nouvel immigrant, qu'il soit étranger en situation irrégulière, titulaire d'une carte verte ou citoyen naturalisé, chaque enfant en Amérique a droit à une éducation gratuite.
Son école reçoit un financement supplémentaire de l'État pour l'aider à s'adapter aux défis d'un corps étudiant en évolution. 23 pays sont représentés, parmi eux le Soudan d'où est originaire l'étudiant Farouk Adam.
Mon meilleur ami est originaire d'Éthiopie et j'ai appris que l'Éthiopie et mon pays, le Soudan, ont beaucoup en commun. Ce que j'aime en Amérique, c'est le système démocratique, la façon dont nous pouvons être libres, la liberté d'expression, la liberté de religion.
Soyana Abtamo vient de l'Éthiopie.
Je pense qu'il est important de rencontrer des gens d'autres pays parce que c'est bien d'avoir des informations sur différents endroits et de les connaître. On ne peut pas se lancer dans le monde sans rien connaître d'autre, alors c'est bien de comprendre les points de vue des gens et tout le reste.
Selon l'Ukrainienne Irina Chatalov, de nombreux parents immigrés craignent que leurs enfants soient mal jugés parce qu'ils ne parlent pas anglais.
Dans cette école, il y a beaucoup d'immigrés nouvellement arrivés, d'origines différentes, et tous les enfants jouent ensemble.
Avec des enseignants originaires d'Europe de l'Est, d'Inde et d'Afrique, la directrice Miller-Forest s'efforce de créer des conditions confortables pour tous les élèves et est fière de la façon dont les enfants américains aident leurs camarades d'autres pays. L'élève Rachel Washington affirme que les immigrés améliorent l'expérience académique de l'école.
Certains de mes amis ont immigré. Certains d'entre eux viennent des pays différents.
Je connais une personne du Mexique. Elle m'a appris quelques mots d'espagnol.
She's taught me a few Spanish words.
Avoir plus d'élèves entraîne des coûts supplémentaires. Les éducateurs affirment que les fonds supplémentaires pour cette année scolaire devront peut-être être augmentés à nouveau l'année prochaine. Car les écoles de Denver ont signalé le mois dernier une augmentation de plus de 90% des inscriptions par rapport à la même période l'année dernière.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
La 19e édition du tournoi interstate de football de la diaspora guinéenne vivant aux États-Unis a connu dimanche dernier son apothéose à Bowie, dans l'état du Maryland. Ils sont venus de Memphis, Atlanta, Columbus, New York, New Jersey, Boston, Chicago et de la région de Washington DC pour cet événement sportif annuel. Compte rendu de Georges Léonard Sagnot.
Cette année, la finale de ce tournoi a été remportée par l'équipe d'Ohio qui a battu au tir au but celle de Washington DC. Ibrahima, un habitant d'Ohio, s'exprimant en anglais et exprimant toute sa fierté.
On est venu ici pour gagner et nous avons gagné. Ohio pour toujours.
Le camp adverse, la défaite est difficile à digérer. Mohamed Camara, Dimo, joueur du Sili DMV, entendez, DC, Maryland et Virginie, réagit.
On a pu marquer le premier but. Donc on devrait défendre. On devrait défendre pour encadrer le but jusqu'à la fin. Mais à la fin, on a créé une faute devant notre surface et puis ils ont égalisé le but. Donc au tir au but, on n'a pas pu avoir la victoire. On va toujours continuer à travailler et puis on espère avoir la coupe, Inch'Allah, l'année prochaine. C'est une déception, mais bon, c'est le football.
Pour la sœur Maria Massiré Chérif, habitante de Washington DC, la déception est totale, mais elles font preuve de fair play.
Ma réaction, je suis de Washington. J'étais un peu déçue. Malheureusement, on a perdu.
L'ambassadeur de Guinée à Washington n'a pas voulu se faire compter l'événement. Suivons Mme Fatoumata Kaba.
Un sentiment de réconfort de voir les Guinéens rassemblés dans leur diversité pour un tournoi de football. Et chaque année, ils le font. Et ce tournoi a 19 ans cette année. Je crois que c'est un sentiment de joie. Le sport est un facteur d'unité, un facteur de solidarité, un facteur de bien-être.
Malik Kébé, homme de culture, est venu de Conakry pour représenter le ministre guinéen de la culture à cette cérémonie.
Comme vous le saviez, chaque année, il y a cette grandiose manifestation qui se tient aux États-Unis et qui met en prise les différents États. Bien entendu, les joueurs sont constitués des ressortissants de notre cher pays, la Guinée. Et moi, je suis très heureux d'être là, de participer à cette 19e édition. C'est ma première participation, mais croyez-moi que je vais retourner à Conakry avec un cœur plein de joie.
En définitive, il faut dire que Washington a mis les bouchées doubles pour réussir le pari. Un pari rehaussé par l'organisation de 3 soirées dansantes. La communauté guinéenne demande à ce que ce rituel soit inscrit au programme annuel des activités culturelles de l'ambassade. Rendez-vous donc en 2025 à Columbus, Ohio.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.